Finalement, Al ajouta une petite phrase à laquelle je n'ai cessé de penser jusqu'à présent.
« Et si tu recommençais après cela, nous serions obligés de te tuer encore. »
Nous nous sommes longtemps regardés, chacun de son côté convaincu, j'en suis sûr, que l'autre était un parfait idiot. 104e jour. Chaque découverte ne fait qu'ajouter à ma confusion. L'absence d'enfants dans le village m'a intrigué depuis le premier jour. En reprenant mes notes, je trouve de nombreuses mentions concernant cette énigme dans les observations dictées au jour le jour à mon père Soc, mais aucune trace dans ce fouillis personnel que j'appelle mon journal. Peut-être, inconsciemment, ai-je jugé les implications trop effrayantes. En réponse à mes efforts répétés et maladroits pour percer ce mystère, les 70 n'ont pu m'offrir que les éclaircissements habituels, consistant en sourires béats assortis de coq à l'âne en comparaison desquels le bavardage du plus demeuré des idiots de village de tout le Retz pourrait passer pour une succession d'aphorismes avisés. La plupart du temps, au demeurant, je n'ai pas de réponse du tout. Un jour, m'étant rapproché de celui que j'ai nommé d'elle et ayant attendu patiemment qu'ils veulent bien s'apercevoir de ma présence, je lui ai posé ma question. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enfants ?
Nous sommes les 70,
a-t-il murmuré.
Où sont vos bébés ?
Pas de réponse, pas même de regard gêné éludant la question. Simplement un visage sans expression.
Lequel est le plus jeune d'entre vous ?
Ai-je demandé après avoir pris une longue inspiration. Dell a paru réfléchir, aux prises avec un concept qui le dépassait. Je me demande si les bicuras ont perdu tout sens chronologique au point que de telles questions soient condamnées à ne jamais recevoir de réponse. Mais, au bout d'une minute ou deux de silence, il a pointé l'index en direction de l'endroit où Al était accroupi au soleil, son petit métier à tisser primitif à la main.
« C'est lui qui est revenu le dernier, » a-t-il dit.
Revenu ? D'où ? Il m'a regardé sans aucune émotion ni impatience.
« Tu appartiens au cruciforme, » m'a-t-il dit. « Tu dois connaître les voies de la croix. »
Je hochai lentement la tête. J'en savais assez pour identifier là l'une des nombreuses boucles d'illogisme qui faisaient habituellement dérailler nos conversations. Je m'efforçais de ne pas lâcher le fil ténu d'informations qui nous reliait encore en disant « Si je comprends bien, Al est le dernier qui soit né, qui soit revenu. Mais d'autres, après lui, reviendront ?» Je n'étais même pas certain de comprendre ma propre question. Comment se renseigne-t-on sur les choses qui concernent la naissance lorsque l'interlocuteur auquel on a affaire n'a pas de mots pour désigner un enfant et semble ignorer le concept de temps? Mais Dell parut saisir ce que je venais de dire. Il approuva d'un mouvement de tête. Encouragé, je poursuivis. Quand le prochain des 70 naîtra-t-il ou reviendra-t-il?
Personne ne peut revenir tant qu'il n'est pas mort, répliqua Dell.
Je crus soudain comprendre.
Tu veux dire qu'il n'y a pas d'enfant, que personne ne reviendra tant que quelqu'un ne mourra pas,
murmurai-je. Vous remplacez ceux qui meurent par d'autres pour que les 70 ne changent jamais de nombre. Dell répondit par l'un de ces silences que j'avais appris à interpréter comme un assentiment. Le système paraissait relativement simple. Les bicuras respectaient sérieusement leur nom. Ils maintenaient leur population à 70, soit le nombre exact de passagers du vaisseau d'ensemencement tombé sur cette planète 400 ans auparavant, une coïncidence étant ici improbable. Lorsque l'un d'eux mourait, il faisait naître un enfant pour remplacer l'adulte. Simple comme tout. Mais parfaitement impossible. Les lois de la biologie et de la nature ne fonctionnent pas ainsi. Outre le problème du seuil démographique, il y avait d'autres absurdités évidentes. Bien qu'il soit difficile d'attribuer un âge à ces individus imberbes, il saute aux yeux que la différence entre le plus jeune et le plus âgé n'excède pas 10 ans.
bien qu'ils se comportent tous, la plupart du temps, comme des enfants. Je serais tenté de dire que leur âge moyen se situe entre 40 et 45 années standard. Où sont donc leurs vieux? Où sont les parents, les oncles âgés, les tantes célibataires? À ce train-là, toute la tribu vieillira à peu près à la même époque. Que se passera-t-il lorsque plus personne ne sera en âge d'avoir des enfants et qu'il faudra remplacer ceux qui meurent? Les Bicura mènent une vie monotone et sédentaire. Le pourcentage de morts accidentelles, même au bord d'un abîme comme la faille, doit être faible. Il n'y a aucun prédateur dans la région. Les variations climatiques sont minimes, et je pense que les sources de nourriture sont stables. Malgré tout, je suis sûr qu'il a dû y avoir, au cours des 400 ans d'existence de cette singulière tribu, des périodes où la famine a décimé le village, où les lianes ont cédé plus que de coutume sous le poids d'un bicura. Bref, une de ces séries statistiques causées par n'importe quoi, qui font subitement grimper la courbe de mortalité et que les compagnies d'assurance, depuis des temps immémoriaux, ont toujours redouté partout. Et comment s'y prennent-ils dans ce cas? Se mettent-ils à procréer subitement pour compenser les pertes avant de reprendre leur petite vie asexuée? Sont-ils différents des autres groupes humains connus au point de passer par des périodes de rut conjoncturelles qui ne surviennent qu'une fois tous les 10 ou 20 ans, voire une seule fois dans toute leur existence? J'en doute. J'ai beau passer toutes les possibilités en revue, je n'en trouve aucune qui soit vraiment satisfaisante. Supposons que ces gens vivent très longtemps et qu'ils soient en mesure de se reproduire durant toute leur vie uniquement pour remplacer les pertes. Cela n'explique pas pourquoi ils ont tous le même âge. Et je ne vois pas comment ils auraient pu acquérir une telle longévité. Les meilleurs produits contre le vieillissement offerts par l'hégémonie permettent, au mieux, de prolonger la vie active de quelques années au-delà des 100 ans fatidiques. L'hygiène de vie et les remèdes préventifs permettent de jouir d'une bonne vitalité jusqu'à 70 ans, presque mon âge. Mais si l'on accepte les transplantations clonées, la biotechnologie et les autres luxes réservés aux gens très riches, personne dans le Retz ne saurait songer à fonder une famille à 70 ans ou à danser à son 110e anniversaire. Si le simple fait de se nourrir de racines de chalme ou de respirer l'air pur du plateau des Pignons avait des effets sensibles sur la longévité humaine, on peut parier que tout Hyperion, à l'heure qu'il est, mâcherait du chalme sur ce plateau, que la planète serait équipée d'un Distrans depuis des siècles et que chaque citoyen de l'hégémonie disposant d'une plaque universelle viendrait y passer ses vacances et sa retraite. Non. La seule conclusion logique est que les Bicura mènent une existence normale, qu'ils ont des enfants de manière normale, mais qu'ils les tuent, sauf lorsque l'un des 70 doit être remplacé. Ils pratiquent peut-être l'abstinence ou une quelconque méthode de limitation des naissances, plutôt que le massacre de leur nouveau-né, en attendant que toute la tribu atteigne un âge où le besoin d'un sang nouveau se fasse sentir. Tout le monde se mettrait alors à procréer en même temps, ce qui expliquerait que tous les membres de la tribu ont apparemment toujours le même âge. Mais qui éduquerait les jeunes? Et que deviendraient leurs parents et les gens âgés? Les Bicura transmettent-ils les rudiments de ce qui pourrait passer à l'extrême limite pour une culture avant de se laisser mourir? Cela, c'est-à-dire la disparition d'une génération en bloc, correspondrait-il à leur concept de vraie mort? Les 70 assassineraient-ils collectivement les individus situés aux deux extrémités de leur courbe démographique en forme de cloche? Ce genre de spéculation est tout à fait stérile. Je commence à en avoir furieusement assez de mon incapacité à résoudre les problèmes. Définis-toi une stratégie une bonne fois pour toutes, Paul, et suis-la, bouge un peu ton cul de jésuite. Problème, comment différencier les sexes? Solution, amène quelques-uns de ces pauvres diables, par la persuasion ou par la force, à se prêter à un examen médical. Découvre ce que peuvent cacher les mystères des rôles sexuels et le tabou sur la nudité. Une société qui dépend, pour la limitation de ses naissances, d'une abstinence rigoureuse étalée sur plusieurs années, est-elle compatible avec ta théorie? Problème. Pourquoi les 70 tiennent-ils tant à maintenir leur population au niveau de la colonie apportée à l'origine par le vaisseau spatial en perdition? Solution. Harcèle-les jusqu'à ce que tu la découvres. Problème.
Où sont les enfants ? Solution, ne leur laisse pas de répit jusqu'à ce que tu l'apprennes. Il est possible que leur voyage quotidien dans les profondeurs de la faille soit lié à cette question. Qui sait s'ils n'ont pas une garderie en bas, ou bien un tas de petits ossements ? Problème, que signifient exactement les expressions « appartenir au cruciforme » et « suivre la voie de la croix » ? Ne s'agit-il pas de toute évidence d'une déformation des croyances religieuses des premiers colons ? Solution, découvre-la en allant à la source. Leur descente quotidienne dans l'abîme est-elle liée à des pratiques religieuses ? Problème, qu'y a-t-il en bas ? Solution, découvre cela en descendant toi-même. Demain, s'ils respectent leur programme habituel, ils vont tous aller dans les bois durant plusieurs heures pour ramasser des baies. Cette fois-ci, je n'irai pas avec eux. Je vais descendre dans la faille. 105e jour. 9h30. Merci, ô mon Dieu, de m'avoir permis de voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Merci, ô mon Dieu, de m'avoir fait venir ici en cet instant pour y découvrir la preuve de ta présence. 11h25. Édouard, il faut que je retourne à la civilisation pour vous montrer, pour montrer au monde entier. J'ai emballé les affaires dont j'aurais besoin. Les disques et le film de l'imageur sont dans un sac que j'ai tressé avec des fibres d'abeste. J'ai de l'eau, de la nourriture, mon Maser avec ses batteries à moitié déchargées, ma tente, des vêtements pour la nuit. Si seulement le paravolt n'avait pas disparu. J'ai soupçonné les bicuras de l'avoir volé, mais j'ai cherché partout dans les huttes et la forêt voisine. Et je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait en faire. Peu importe. Je partirai aujourd'hui si je peux. Autrement, le plus tôt possible. Édouard, tout est là, sur le film et les disques. 14h. Impossible de passer aujourd'hui à travers la forêt des flammes. La fumée m'empêche même de m'approcher de la zone d'activité. Je suis retourné au village et j'ai revu les holos. Impossible de se tromper. Le miracle est authentique. 15h30. Les 70 vont rentrer d'un moment à l'autre. Et s'ils savaient, s'ils étaient capables de savoir, rien qu'en me regardant, que je suis allé là-bas, je pourrais me cacher. Je n'ai aucune raison de me cacher. Dieu ne m'a pas fait venir de si loin pour me montrer ce que j'ai vu et me laisser périr ensuite des mains de ces pauvres enfants. 16h15. Les 70 sont rentrés. Ils ont regagné leur hutte sans même m'accorder un regard. Assis sur le seuil de ma cabane, je ne peux pas m'empêcher de sourire, de rire aux éclats et de prier. Tout à l'heure, je suis allé au bord de la falaise dire la messe et communier. Les bicuras ne se sont pas intéressés à moi. Quand pourrais-je partir d'ici ? Le contremaître Orlandi et Tuc ont dit que la forêt des flammes demeurait en activité pendant 3 mois, 120 jours locaux, puis qu'il y avait un répit relatif de 2 mois. Tuc et moi sommes arrivés le 87e jour. Je ne peux pas attendre encore 100 jours pour apporter la nouvelle au monde, à l'univers tout entier. Si seulement un glisseur pouvait braver la forêt des flammes et me tirer de là. Si seulement j'avais accès à l'un de ces infosats qui desservent les plantations. Tout est possible. D'autres miracles se produiront maintenant. 23h50. Les 70 sont descendus dans la faille. Le cœur du vent monte de partout. Si seulement je pouvais être en bas avec eux, je vais faire ce qui s'en approche le plus. Je vais m'agenouiller ici, au bord de la falaise, et prier tandis que le vent des abîmes chante ce qui ne peut être, je le sais maintenant, qu'un hymne à la présence bien réelle de mon Dieu. 106e jour. J'ai ouvert les yeux dans un matin parfait. Le ciel avait une couleur turquoise intense, le soleil était serti comme une petite pierre sanguine. Je suis sorti sur le seuil de ma hutte tandis que la brume s'éclaircissait, que les créatures arboricoles donnaient leur premier concert de piaillement et que l'atmosphère se réchauffait peu à peu. Puis je suis rentré regarder une nouvelle fois mon film et mes disques. Je m'aperçois que, dans la confusion d'hier, je n'ai pas encore décrit ce que j'ai vu en bas. Je vais essayer de le faire maintenant.
J'ai sous les yeux les disques, le film et les notes de mon père Soc. Mais je continue de remplir ce journal par crainte que tout le reste ne soit détruit un jour. Il était environ 7h30 quand je me suis laissé descendre hier matin contre le flanc de la falaise. À voir les bicuras, il paraissait facile de céder des lianes qui sont en nombre suffisant pour former des sortes d'échelles presque partout. Mais lorsque j'ai commencé à me balancer au-dessus du vide, j'ai senti mon cœur battre à se rompre. Il devait bien y avoir 3000 mètres de dénivellation jusqu'en bas. Agrippé à deux lianes à la fois pour plus de sécurité, je me suis laissé glisser lentement en évitant de regarder en direction de l'abîme. Il m'a fallu près d'une heure pour couvrir les 150 mètres que les bicuras, à n'en pas douter, descendent en 10 minutes. Finalement, j'ai atteint la courbe d'un gros rocher en surplomb. Quelques lianes pendaient encore dans le vide, mais la plupart suivaient par en dessous le contour de la roche en direction de la falaise, à une trentaine de mètres vers l'intérieur. Quelques-unes de ces lianes semblaient même avoir été grossièrement tressées pour former des sortes de passerelles sur lesquelles les bicuras devaient être capables d'avancer sans céder des mains. Pour ma part, je les suivis en rampant, en m'aidant des lianes qui pendaient, et en murmurant des prières que je n'avais pas récitées depuis mon enfance. Je gardais les yeux fixés droit devant moi, comme si cela pouvait me faire oublier qu'il n'y avait qu'un vide pratiquement infini sous les rudes cordes qui se balançaient en crissant sous mon poids. Une corniche assez large longeait la falaise à cet endroit. J'attendis de m'être avancé de 3 mètres vers la paroi, avant de me laisser glisser, agrippé à une liane, sur la plateforme située à 2 mètres au-dessous de moi. La corniche avait environ 5 mètres de large et se terminait un peu plus loin, au nord-est, à l'endroit où la masse du surplomb prenait naissance. Je suivis la direction opposée sur une trentaine de pas et m'arrêtai subitement, frappé de stupeur. C'était un véritable sentier qu'il y avait là, gravé dans la roche. Sa surface polie s'était creusée de plusieurs centimètres. Plus loin, là où la corniche s'incurvait en descendant, des marches avaient été taillées, mais elles aussi étaient usées par les pas au point de former un creux visible en leur milieu. Je m'assis quelques instants pour digérer cette simple évidence. 400 ans de visites quotidiennes par le groupe des 70 ne suffisaient d'aucune manière à expliquer l'érosion de cette roche massive. Quelqu'un ou quelque chose devait utiliser ce chemin bien avant que le vaisseau d'ensemencement ne tombe sur la planète. Ce passage servait à quelqu'un ou à quelque chose depuis des millénaires. Je repris ma progression. On entendait le bruit lointain du vent qui soufflait à travers la faille, mais je m'aperçus, en tendant l'oreille, que je pouvais capter également le bruit léger du fleuve qui coulait au fond de l'abîme. Le sentier s'incurvait sur la gauche pour contourner une protubérance de la falaise et finissait là. Je m'avançais sur une large dalle qui descendait en pente douce et me trouvais alors devant un spectacle qui me fit faire machinalement le signe de la croix. La corniche étant orientée nord-sud sur une centaine de mètres, la vue qui s'offrait à l'ouest, à travers la trouée de la faille sur une bonne trentaine de kilomètres, portait jusqu'au plateau à ciel ouvert. Je compris tout de suite que le soleil couchant, chaque soir, devait illuminer cette avancée de la falaise, et je n'aurais pas été surpris d'apprendre qu'à certaines périodes de l'année, en particulier au solstice de printemps et d'automne, le soleil d'Hyperion, observé de cette plateforme, donnait l'impression de se coucher directement dans la faille, les bords embrasés de son orbe effleurant à peine les parois rocheuses teintées de pourpre. Je me tournai vers l'est pour examiner la falaise. Le sentier de pierre polie conduisait directement à une double porte taillée dans la paroi rocheuse. Plus qu'une double porte, c'était un portail monumental, orné de moulures et de linteaux de pierre finement sculptés. De part et d'autre des deux battants de ce portail, s'élevaient de larges fenêtres à vitraux qui devaient faire au moins 20 mètres de haut. Je m'approchai de la façade. Ceux qui avaient construit ce monument avaient taillé la falaise de granit pour élargir le rebord en dessous du surplomb et avaient creusé une galerie dans les profondeurs de la roche. Je passai la main sur les reliefs ornementaux profonds qui entouraient le portail. Tout avait été érodé et poli par le temps, même dans cet endroit abrité de presque tous les éléments par la roche en surplomb. Depuis combien de milliers d'années ce temple avait-il été creusé dans la paroi sud de la faille? Les vitraux n'étaient ni en verre ni en plastique, mais semblaient faits d'un matériau épais et translucide, aussi dur au toucher que le granit environnant. Et il ne s'agissait pas d'un assemblage de panneaux, mais d'une seule surface où les couleurs se mêlaient, tourbillonnaient et se superposaient comme de l'huile à la surface de l'eau. Je sortis ma lampe de mon paquetage, appuyai légèrement sur l'un des battants et fus pris d'une soudaine hésitation lorsque le haut portail glissa sans bruit et sans résistance vers l'intérieur. Je pénétrai dans le vestibule, il n'y a pas d'autre mot. Traversai un espace silencieux d'une dizaine de mètres et me retrouvai devant un nouveau mur fait du même matériau translucide que les vitraux qui brillaient derrière moi, emplissant le vestibule d'une lumière dense faite de dizaines de riches tons subtils. Je compris, une fois de plus, qu'à l'heure du couchant, les rayons du soleil devaient baigner cet espace d'incroyables faisceaux de lumière multicolore qui, sans aucun doute, traversaient le mur translucide qui était devant moi pour illuminer ce qui se trouvait de l'autre côté. Je découvris, dans la surface de vitrail, une porte à l'encadrement de métal noir et je la franchis à son tour. Sur Passem, nous avons tant bien que mal, à l'aide de photos et de films holo, reproduit la basilique de Saint-Pierre, à peu près exactement telle qu'elle se dressait dans l'ancien Vatican. Longue de 200 mètres et large de 135, elle peut accueillir 50 000 fidèles lorsque sa sainteté célèbre la messe. Mais nous n'avons jamais eu plus de 5000 pratiquants sur Passem, même lorsque le concile des évêques de tous les mondes se réunit tous les 43 ans. Dans l'abside centrale, où se trouve notre copie du trône de Saint-Pierre sculpté par Bernin, le grand dôme s'élève de plus de 130 mètres au-dessus du plancher de l'autel. C'est un espace impressionnant. L'espace où je me trouvais était encore plus vaste. Dans la lumière filtrée, je me servis de ma torche pour m'assurer que je me trouvais bien dans une seule salle énorme, un hall géant creusé à même le roc. J'estimais que les murs de pierre polie devaient grimper si haut jusqu'à la coupole que celle-ci ne pouvait pas se trouver bien loin de la surface où les bicuras avaient édifié leur hutte. Il n'y avait aucun ornement à l'intérieur, aucun meuble, aucune concession à la forme ou à la fonction, excepté l'objet érigé juste au centre de la grande salle qui résonnait comme une caverne. Au milieu du grand hall s'élevait un autel, constitué d'un cube de pierre de 5 mètres de côté, dont l'origine devait remonter au percement de la falaise. Et au centre de cet autel se dressait une croix. Elle mesurait 4 mètres de haut sur 3 de large, et elle était sculptée dans le style complexe des vieux crucifix de l'ancienne terre. La croix faisait face au mur vitrail, comme si elle attendait le soleil et l'explosion de lumière qui embraserait les diamants incrustés, les saphirs, les cristaux de sang, les lapis, les larmes de reine, les onyx et autres pierres précieuses que je découvrais à la lueur de ma torche en me rapprochant. Je me mis à genoux pour prier. Éteignant la torche, je dus attendre plusieurs minutes que mes yeux s'accoutument à l'obscurité afin de discerner la croix dans la pénombre fumeuse. C'était là, sans nul doute, le cruciforme dont parlait l'Épicura. Et il avait été placé ici des millénaires auparavant. 10 000 ans peut-être, bien avant que l'humanité ne quitte pour la première fois l'ancienne terre, sans doute avant même que le Christ ne diffuse son message en Galilée. Je me mis à prier. Je suis maintenant au soleil, après avoir fini de classer mes discolos. J'ai pu avoir confirmation en les revoyant d'un fait que j'avais à peine remarqué dans mon excitation, en remontant de ce que j'appelle maintenant la basilique. Le sentier continue. Il y a des marches qui descendent dans la faille. Elles ne sont peut-être pas aussi usées que celles qui mènent à la basilique, mais elles sont tout aussi étonnantes. Dieu seul sait quelles autres merveilles attendent en bas. Il faut que le monde soit prévenu de cette découverte.
Quelle ironie que ce soit justement moi qui l'ai faite.
Sans l'affaire d'Armagaste et mon exil, il aurait peut-être fallu attendre encore des siècles. L'Église se serait éteinte avant que ces révélations ne lui insufflent une nouvelle vie. Mais la découverte est là, et c'est moi qui l'ai faite. D'une manière ou d'une autre, je réussirai à faire sortir d'ici mon message. 107e jour, je suis prisonnier. Ce matin, je me lavais à l'endroit habituel, non loin du bord de la falaise où le cours d'eau se jette en cascade dans le vide, lorsque j'ai entendu du bruit derrière moi. Dell était là, en train de m'observer avec de grands yeux. Je lui ai fait un signe d'amitié de la main, mais il a pris ses jambes à son cou. Cela m'a laissé perplexe. C'était la première fois que je voyais un bicura courir. J'avais dû enfreindre leur puissant tabou sur la nudité en me montrant torse nu à Dell. Je secouais la tête en souriant, m'habillais et retournais au village. Si j'avais su ce qui m'y attendait, je n'aurais pas eu envie de sourire. Les 70 au complet me regardaient approcher. Je me suis arrêté à une dizaine de pas d'Alpha. Bonjour, lui ai-je dit. Il a fait un geste et 6 bicuras se sont jetés sur moi. Immobilisant mes bras et mes jambes, ils m'ont cloué au sol. Beta s'est avancé et il, ou elle, a tiré de dessous sa robe une longue pierre à l'arête tranchante. Je me suis débattu comme un diable, mais en vain. Beta a alors lacéré mes vêtements jusqu'à ce que je me retrouve presque nu. J'ai cessé de me débattre tandis que les bicuras s'approchaient pour me regarder en murmurant des commentaires à voix basse. Je sentais mon cœur battre à se rompre. « Je regrette d'avoir enfreint vos lois, leur ai-je dit. Mais ce n'est pas une raison pour… »« Silence !» s'est écrié Alpha. Il s'est tourné vers un grand bicura, celui qui a une cicatrice à la paume d'une main et que j'appelle Z. « Il n'appartient pas au cruciforme, » a-t-il dit. Z a hoché la tête. « Laissez-moi vous expliquer. » Alpha m'a fait taire d'un grand coup du dos de la main qui m'a fait saigner de la lèvre et bourdonner des oreilles. Mais il n'y avait pas plus d'hostilité dans son geste que lorsque je fais taire mon persoc en frappant une touche.
« Qu'allons-nous faire de lui ?» a demandé Alpha. « Ceux qui ne servent pas la croix doivent mourir de la vraie mort, » a répondu Beta, tandis que la foule des bicuras faisait un pas menaçant en avant.
Plusieurs de ces sauvages avaient une pierre tranchante à la main.
« Ceux qui n'appartiennent pas au cruciforme doivent mourir de la vraie mort, » a répété Beta sur le ton de ces litanies religieuses qui acquièrent une auto-finalité complaisante à force d'être répétées.
« Mais je sers la croix !» ai-je protesté tandis que la foule me forçait à me relever. J'agrippais le crucifix que je porte au cou et réussis, malgré la pression des bicuras, à le brandir au-dessus de mon front.
Alpha leva aussitôt les deux mains et le silence se fit. Brusquement, on entendit de nouveau la rivière qui coulait 3000 mètres plus bas, au fond de la faille.
« C'est vrai qu'il porte une croix, » dit Alpha.
Dell s'avança.
« Mais il n'appartient pas au cruciforme, » protesta-t-il. « Je l'ai vu, ce n'est pas ce que nous pensions. Il n'appartient pas au cruciforme. »
Il y avait une violence meurtrière dans sa voix. Je me maudis d'avoir été si stupide et si imprévoyant. L'avenir de l'Église dépendait de ma survie, et j'avais gâché toutes mes chances en agissant comme si les bicuras étaient des enfants bornés et inoffensifs.
« Ceux qui ne servent pas la croix doivent mourir de la vraie mort, » répéta alors Beta.
C'était le ton d'une sentence sans appel. 70 mains se levèrent avec leurs pierres tranchantes lorsque je hurlais, sachant que je jouais ma dernière carte et que je courais le risque d'attiser leur fureur.
« Je suis descendu dans la faille et j'ai prié devant votre autel. Je suis le serviteur de la croix. »
Alpha et les autres hésitèrent. Je vis qu'il peinait sur cette nouvelle idée. Je sers la croix et je veux appartenir au cruciforme, déclarai-je d'une voix aussi calme que possible. J'ai prié devant votre autel.
Ceux qui ne servent pas la croix doivent mourir de la vraie mort, a rappelé Gamma. Il sert la croix, a répliqué tranquillement Alpha. Il a prié dans la salle.
C'est impossible, a fait Zed. Ce sont les 70 qui prient là-bas, et il ne fait pas partie des 70.
Nous savions déjà qu'il n'en fait pas partie, dit Alpha en plissant légèrement le front devant le problème de concordance des temps.
Il n'appartient pas au cruciforme,
murmura Delta Prime.
Ceux qui n'appartiennent pas au cruciforme doivent mourir de la vraie mort,
renchérit Beta.
Il sert la croix, fit remarquer Alpha. Est-ce qu'il ne pourrait pas appartenir au cruciforme?
Un cri collectif s'éleva. Au milieu du vacarme et de l'agitation, j'essayais de me dégager, mais les mains qui m'immobilisaient ne cédèrent pas.
Il ne fait pas partie des 70 et il n'appartient pas au cruciforme,
résuma Beta d'une voix qui semblait maintenant plus intriguée qu'hostile.
Pourquoi ne devrait-il pas mourir de la vraie mort? Il faut que nous lui tranchions la gorge avec nos pierres pour faire couler le sang jusqu'à ce que son cœur s'arrête de battre. Il n'appartient pas au cruciforme.
Mais il sert la croix, dit Alpha.
Il pourrait très bien appartenir au cruciforme.
Cette fois-ci, un lourd silence accueillit la remarque.
Il sert la croix et il a prié dans la salle du cruciforme,
déclara Alpha.
Il ne doit pas mourir de la vraie mort. Ils meurent tous de la vraie mort,
fit un bicura dont je ne reconnus pas la voix. J'avais mal au bras à force de maintenir la croix levée.
Excepté les 70,
acheva le bicura anonyme.
C'est parce qu'ils ont servi la croix et qu'ils ont prié dans la salle et qu'ils ont appartenu au cruciforme,
répliqua Alpha.
Ne doit-il pas, lui aussi, appartenir au cruciforme?
Brandissant ma petite croix métallique, j'attendais leur verdict. J'avais peur de mourir, certes, mais la plus grande partie de mon esprit, étrangement détaché du reste, regrettait surtout que je ne puisse faire parvenir au reste médusé du monde la nouvelle de l'existence de cette incroyable basilique.
Venez, il faut que nous en discutions,
dit Beta aux autres bicuras.
Ils regagnèrent silencieusement le centre du village en me poussant parmi eux. Ils m'ont enfermé dans ma hutte. Je n'ai pas eu la moindre occasion de m'emparer de mon mazer. Plusieurs d'entre eux me maintenaient tandis qu'ils vidaient la hutte de la plus grande partie de mes possessions. Ils m'ont pris tous mes vêtements. Ils ne m'ont laissé pour me couvrir que l'une de leurs robes grossières. Plus le temps passe, plus je me morfonds et plus je me sens gagné par une fureur sourde. Ils m'ont pris mon persoc, mon imageur, mes plaquettes et mes disques. Je n'ai plus rien. Il y a bien une caisse encore fermée d'équipement médical à l'emplacement de mon ancien camp, mais en quoi pourrait-elle m'aider à garder trace du miracle de la faille? S'ils détruisent les objets qu'ils m'ont pris, et s'ils me détruisent aussi, il n'y aura plus nulle part aucune mention de la basilique. Si j'avais une arme, je pourrais tuer mes gardiens et... Mon Dieu, quelles idées me viennent à l'esprit! Que dois-je faire, Édouard? Même si je survis à tout cela, même si je retourne un jour à Kitz, et si je parviens à regagner le Retz, qui me croira au bout de 9 ans d'absence, compte tenu du déficit de temps dû au saut quantique? Un pauvre vieillard qui revient avec les mêmes mensonges que ceux qui ont causé son exil. Mon Dieu! S'ils détruisent mes preuves, mieux vaut qu'ils me détruisent avec.